France Info.
Bonjour Nicolas Karabatic.
Bonjour.
Vous êtes ce joueur de handball français qui a évolué au poste d'arrière gauche ou de demi-centre en équipe de France et au club du Paris Saint-Germain, désigné meilleur handballeur mondial de l'année en 2007, 2014, 2016 par la Fédération internationale de handball. Vous êtes aussi triple champion olympique, quadruple champion du monde et d'Europe. Je crois que vous avez quasiment tout gagné. Très simplement, vous êtes considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport avec des qualités physiques qui ont autant impressionné qu'attristé les équipes adverses. Aujourd'hui, vous venez nous parler de la sortie de deux bandes dessinées intitulées Les Frères Karabatic, tome 1 et 2, Unis pour gagner et les débuts chez Casterman, et votre récit autobiographique Ma plus belle victoire chez Flammarion, écrit avec la complicité du journaliste Basile De Bure. On y découvre comment vous êtes devenu ce joueur autant redouté que redoutable. Vous nous ouvrez les portes de votre intimité avec cette fragilité, ses joies, ses peines, ce fameux soir d'octobre 2022 pendant lequel tout s'est figé autour de vous, lors d'un échauffement d'un match de championnat avec perte d'équilibre et dépression qui a suivi. Vous abordez aussi les sujets qui fâchent, sensibles, comme vos paris sportifs avec ce match truqué de mai 2012 entre Cesson et Montpellier, pour lequel vous avez été condamné par le tribunal d'ailleurs. Est-ce que c'est pas un tête-à-tête finalement avec vous-même d'abord, ce livre, Nicolas ?
Oui, tout à fait. Je pense que quand on fait une autobiographie, c'est d'abord un travail sur soi-même. Et c'est pour ça que je voulais pas la faire au début. Je pense qu'il y avait une partie de moi qui en avait peur, où je me disais, de toute façon, tout a été déjà raconté sur moi. Pourquoi revenir sur ma carrière? Et j'avais pas envie de faire un livre où, ben, je m'auto-félicite et je raconte mes exploits et une énième fois. Et donc, il a fallu que ça prenne un peu de consistance et que ça chemine en moi. Et un an après, voilà, mon arrêt de carrière, là, je me suis dit, non, en fait, il y a des choses à raconter et j'ai envie d'aborder ce livre par le prisme, qu'est-ce que j'ai appris de ma carrière, comment j'ai évolué à travers toutes les expériences, victoires, défaites, beaux moments, moments difficiles, très difficiles, ce que ça m'a appris, comment je les ai traversés, comment je les regarde et ce que je peux en apprendre et ce que je peux transmettre aux personnes qui le liront.
Vous étiez déjà très curieux enfant, c'est ce qu'on découvre hein, dans cet ouvrage, soucieux des autres déjà et de l'environnement dans lequel vous vous trouviez. La Serbie et la Croatie sont très très importantes pour vous et pour cause, c'est là où votre père a grandi, c'est là où vous alliez d'ailleurs tous les étés. Vous avouez avoir été très jeune, fasciné, guidé par Kéros, le plus jeune fils de Zeus, caractérisé par sa grande vitesse. Il est le dieu de l'opportunité, hein, mais surtout du bon moment. C'est-à-dire que vous nous embarquez sur une chose qui vous a toujours été évidente, c'est de ne pas rater l'opportunité. Vous avez toujours fonctionné à l'instinct.
Oui, j'ai toujours fonctionné à l'instinct. En revisitant ma carrière, je me suis aperçu, c'est fou en fait, le nombre de fois, de moments dans la vie qui sont tellement importants, on s'en rend pas compte sur le coup, mais après, en revisitant, on se dit « Ah oui, ça tenait qu'un seul cheveu ». En travaillant avec Basile, avec qui on a une super complicité, on s'est dit « c'est fou, tous ces moments-là ». Je sais pas comment on est arrivé à parler de Kairos, le dieu voilà, de l'opportunité, je sais pas comment on peut le décrire. Et il m'a parlé de Kairos, et je lui ai dit « Mais en fait, Kairos, c'est l'emblème de la ville où mon papa est né, et d'où je viens en Croatie ». Et donc, on a commencé à parler de lui, et c'est comme ça que cet emblème-là est venu. On s'est dit « En fait, ça colle parfaitement au livre, parce que c'est ça la vie, c'est des moments, parfois on ne sait pas pourquoi ils nous arrivent. Pour moi, que ce soit ce moment de commotion, burn-out, cette blessure, cette phlébite, cette embolie, l'affaire des paris, il y a plein de moments qui nous arrivent dans la vie. On ne sait pas pourquoi, on ne les maîtrise pas. Il faut apprendre à s'en servir pour aller plus loin. Et après, une fois, quelques années après, on se retourne, on les regarde, on se dit « Ah oui, en fait, ça a été des moments importants et j'ai su les saisir. J'ai su saisir les opportunités, les rencontres et j'ai su avancer. » Et donc c'est pour ça qu'on a voulu un petit peu tourner aussi ce livre autour de Kairos.
Vous avez longtemps prié hein, devant lui, à l'abri des regards. C'est-à-dire que dès le départ, on comprend une chose, c'est que dans la famille Karabatic, l'homme est très important, ça doit être un pilier. Il ne doit pas montrer ses faiblesses, ses moments de doute.
Oui, et puis je pense que c'était aussi une époque, il y a quelques années, voilà, dans laquelle on a grandi, c'est qu'on doit être fort, on doit être une machine, et physique, et mentale, et encore plus dans le sport de haut niveau. Il y a 20 ans, ceux qui réussissaient, il y avait un écrémage, et c'était la force mentale, en fait, c'était ça, c'était ceux qui étaient capables de survivre à la pression du résultat, du match, de l'entourage, de ses coéquipiers, du public. Donc c'est vrai qu'on se forge une carapace comme ça. Après, j'ai eu la chance d'avoir une famille très aimante et qui m'a toujours témoigné beaucoup d'amour. Donc j'ai toujours senti quelque part en moi cet amour et cette bienveillance que j'avais. Mais ouais, je la gardais pour moi le soir quand j'étais heureux, quand j'étais triste. Je pleurais tout seul dans mon lit. Mais oui, j'ai toujours eu ça en moi. Mais l'époque faisait que nos émotions, on se les garde chacun pour soi, on n'en parle pas, on les ouvre pas. Et j'ai appris que, en fait, les émotions, c'était important de les adresser.
C'est ce que vous mettez en avant dans ce livre. On part quand même d'une phrase qui marquait votre enfance. Les Turcs, quand ils se faisaient couper la tête, ils ne pleuraient pas.
Ouais.
Ça montre quand même à quel point il y avait un côté très testostéroné envoyé par votre père, handballeur, qui était un dieu, hein, justement, dans son pays, qui s'est occupé de vous pendant très longtemps. Et c'est le premier qui croit en vous. C'est le premier qui comprend que vous êtes fait pour ça.
Oui, alors cette phrase, j'en ai beaucoup discuté avec Basile. Je dis, je sais pas si j'ai envie de la mettre parce qu'elle est vraie.
Importante.
Il me répondait et il me dit, mais non, elle est importante. Cette phrase, je dis ouais, mais ça peut être mal pris, surtout aujourd'hui. Non, je pense que c'est pas mal. Et c'est vrai que mon père, c'était pas forcément un dieu dans son pays, parce que la Yougoslavie à cette époque-là, c'était un des plus grands pays sportifs en Europe,
en tout cas,
dans le monde.
Mais il était systématiquement arrêté dans la rue.
Il était en équipe nationale, ouais. Il était respecté. Mais en tout cas, c'était un dieu pour moi. J'ai grandi en l'admirant. Ça a été mon prof de sport à l'école, mon entraîneur, mon mentor. Enfin, bref, tout pour moi. Avec ma maman, bien sûr, mais à ce moment-là, c'était lui qui avait un peu ce rôle de papa. Et donc, je l'écoutais, tout ce qu'il disait, ça m'impactait fort. Donc, ouais, il avait cette petite phrase qui disait en rigolant, pendant la guerre, les guerres ottomanes, les Turcs, ils se sont fait couper la tête, ils pleuraient pas. Dès que je me faisais mal, en fait, ils me disaient ça en rigolant. Donc, moi, je répondais, mais papa, mais non, ils étaient morts, ils pouvaient pas pleurer. Et là, ils se marraient, ah, ah, ah. Mais en fait, c'était, voilà, apprends à te relever. Hein, c'est déjà la résilience. Relève-toi. Si t'as mal, tu serres les dents et t'avances et tu te plains pas. Et c'est vrai que ça m'a guidé pendant toute ma vie et ça me guide encore aujourd'hui.
Le point de départ de ce livre, ça reste quand même ce moment de faiblesse que vous vivez, alors vraiment très très mal, mais ce qui est logique parce que vous n'avez pas pour habitude de stopper une activité, de sortir du terrain ou de ne pas rentrer sur le terrain. Ça a lieu le 29 octobre 2022, vous échauffez avec vos coéquipiers et d'un seul coup c'est le vide. Vous voyez double, vous ne vous sentez pas bien du tout au point de ne pas rentrer sur le terrain, de ne pas jouer. Vos médecins amis vous font passer des examens en vue d'une commotion cérébrale et non, ce n'est pas ça. Pourtant, vous en avez tous les symptômes. De là, vous allez plonger dans une sorte de dépression. Pour la première fois de votre vie, vous le dites, je ne contrôle plus rien et ça me terrifie. Le bruit même vous devient insupportable. C'est la première fois, on le comprend, que vous ne maîtrisez pas la situation.
Oui, c'est la première fois où je ne maîtrise pas du tout la situation. J'avais eu un peu cet épisode-là quand je m'étais fait les croisés juste avant les JO et j'avais eu une phlébite avec embolie pulmonaire où j'avais pas du tout compris pourquoi ça m'était arrivé, mais j'avais un certain contrôle parce qu'il y avait une rééducation et ça, ça pouvait rester entre mes mains. Et là, c'est la première fois où je contrôle plus rien, où ma force mentale de contrôle, de résiliation, de traverser les murs ne me sert plus à rien du tout et où mon mental devient même presque quelque part mon ennemi. Il a été si fort pendant des années et là il se met à tourner dans tous les sens et je comprends pas. J'ai aucune réponse. Comme vous l'avez dit, je vais voir des médecins qui me font passer des tests sur des ordinateurs, je suis des balles et ils me disent voilà, les tests normalement c'est censé chuter, là ça remonte, c'est bizarre, mais tu as tous les symptômes donc c'est une commotion, tu vas te reposer pendant une ou deux semaines, on va reprendre petit à petit et je vois bien, je sens quelque part en moi que c'est pas ça, enfin que ça me convainc pas. Et là par hasard, j'ai un ami qui est là chez moi et je sais pas comment on en vient à parler de ça, il me dit mais non, c'est pas une commotion, que t'as un moment dans ta vie où déjà t'es HS complet énergétiquement, t'es au plus bas et t'es dans un tournant dans ta vie, Kairos encore une fois, t'es un moment charnière, là ta première version de toi-même, le robot, le cyborg qui réussissait tout, qui était incassable, imbattable, ben c'est terminé, tu commences à regarder vers l'autre vie qui arrive, vers ta reconversion, t'as commencé à engager pas mal de projets et tu sais plus où t'es, ton système ne sait plus où il est, déjà il est HS énergétiquement, donc il va falloir que tu te reposes, tu récupères
et tu te ressources,
il commence à me parler
de la forêt.
Il me parle de marche en forêt, de méditation, de connexion à la nature. Et moi, esprit très cartésien, où non, tout est mental, tout est logique, ça marche pas. Mais en même temps, je suis tellement au plus bas où je me dis, bah, de toute façon, personne qui peut m'aider là où je suis. Donc, bah, vas-y, teste. Il y a cette curiosité d'enfant qui revient avec l'envie de, quand il y a quelque chose qui me parle, d'aller au bout des choses et de le toucher, de le comprendre. Donc, je dis, bon, bah, vas-y, laisse tes a priori et teste ça et teste la méditation. J'ai commencé à me parler de spiritualité. Pour moi, jusque-là, spiritualité, c'était religion. Et chez moi, il y a quelque chose qui bloque avec la religion. Il y a quelque chose vraiment.
Mais même si d'ailleurs vous dites que vous aviez du dédain pour les psys,
enfin,
il y a vraiment
tout début de ma carrière,
sur le fait d'être faible mentalement et d'avoir besoin d'aide.
Ouais. Et donc là, je comprends que on va court-circuiter le mental et que le mental, il peut être un ami, mais il peut être un ennemi aussi. Et qu'il y a quelque chose de plus profond, qu'il y a des énergies plus profondes avec lesquelles on touche avec la méditation, on peut les toucher. Il y a des émotions, il y a des parcours de vie, il y a des peurs qui sont ancrées en soi, surtout quand on est un compétiteur, c'est qu'on a des choses à se prouver à son entourage, aux autres. Et donc il y a tellement de choses à explorer. Je me suis pris cette vague, voilà, de nouveaux nouveauté dans la gueule. Et je me dis, waouh, mais en fait, c'est hyper intéressant. Et bien, je vais plonger dedans. Et ça m'a beaucoup parlé. Je suis encore dedans à découvrir, à apprendre. Je me suis mis à lire plein de livres différents, à explorer, à partir en forêt. Il y a une forêt qui était juste à côté de moi. Je venais de déménager. J'étais jamais allé faire un tour dedans.
Et vous ne vouliez pas de cette maison à cause de ça? Parce qu'elle était excentrée?
Ouais, je voulais être en centre-ville. Je sais pas pourquoi, pour pouvoir sortir et boire un café en bas de chez moi. Et là, je me suis dit, mais en fait, pareil, Cairo, c'est bizarre. Je voulais pas cette maison-là au bord de la forêt. Maintenant, je l'ai. Ben, je vais y aller. Et puis, à partir de ce moment, j'ai passé quasiment tous les jours, tous les deux jours en forêt, à me balader tout seul, à prendre à pleine conscience, à respirer, à méditer. J'ai même croisé un arbre. J'ai fait un câlin à un arbre. Alors que, un mois avant, quand je voyais des gens faire ça sur les réseaux sociaux, je me foutais de leur gueule. Et voilà. Et donc, ça m'a amené à revisiter, ben, ma vie, mon ego aussi, à comprendre le mental, la résilience aussi. J'ai appris ce qu'était la vraie résilience. La première qui est de foncer à travers les murs, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Et là, j'ai appris la résilience avec l'acceptation des choses, l'acceptation que je suis pas une machine, que je suis mortel, faillible, et qu'en fait, de l'être et de se l'avouer, de l'avouer aux autres, ben, ça nous rend encore plus fort.
Vous êtes donc effectivement initié à la médiation énergétique avec cette reconnexion à la nature et au monde qui vous entoure. Vous êtes surtout reconnecté à l'enfant que vous étiez. C'est ça qui est très fort dans cet ouvrage, c'est que vous êtes allé chercher, épuisé dans cette enfance, parce que c'est à ce moment-là que ça démarre. Et vous avez compris énormément de choses sur vous.
Ouais, j'ai compris énormément de choses sur moi, sur ma famille, sur mon papa, sur ma maman aussi. Ça m'a permis de revisiter mes relations avec ma maman, avec mon frère, avec ma belle-sœur, avec ma compagne. Et donc, pour moi, ce livre, c'est déjà un succès personnel parce qu'il m'a tellement apporté, m'a permis d'aborder des discussions très profondes avec des membres très proches de mon entourage. Donc, ça a été un vrai bouleversement. Et donc, ouais, j'ai compris d'où me venait aussi cette colère que j'avais en moi, qui m'a permis d'abattre des montagnes et de gagner tout ce que j'ai gagné, de devenir ce monstre de compétition. J'ai compris qu'elle était reliée aussi à ma mère. J'ai compris pourquoi j'ai voulu tant rechercher l'amour de mon père alors qu'il m'a jamais demandé d'être le meilleur au monde ou d'être
champion
olympique.
C'est la première chose que vous racontez. Vous dites, moi, ce qui était important avec mon père, c'était qu'il m'aime.
Ouais, c'était ça et c'était assez fou. Et j'ai compris, voilà, pendant mon père est je suis né en ex-Yougoslavie, en Serbie actuellement, et mon père est parti tout de suite jouer en France, à Strasbourg. Il s'est exporté et les quatre premières années de ma vie, je les ai passées quasiment sans mon papa. Enfin, on le voyait par à coup parce que ma mère finissait ses études de médecine en ex-Yougoslavie, donc on allait le voir, on voyageait, et après on s'est installé définitivement 4 ans après quand mon frère est né en France, à Strasbourg. Et donc je pense qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont parties de là, de l'absence de mon papa, et qu'il y a énormément de choses qui se sont jouées comme ça dès l'enfance, dès le plus jeune âge, et c'est génial. Et j'ai aussi compris à travers ça que, par exemple, avec mon frère, on n'avait pas du tout la même manière de voir les choses, de vivre les choses, et ça m'a permis aussi avec lui d'aborder beaucoup, beaucoup de discussions. Et je pense que si j'avais pas fait ce livre-là, je n'aurais pas vécu ça et ces discussions-là.
C'est étonnant d'ailleurs, parce que quand vous êtes né, au moment de l'accouchement, votre père était sur le terrain, gardien de but, justement, pour un grand match. Votre mère a voulu le préserver absolument, elle voulait pas qu'il ait la pression. Elle est folle, cette histoire. D'ailleurs, elle en dit long sur le rapport que vous aviez déjà et qu'ils avaient entre eux, cette espèce de respect. Dans votre mémoire, cette enfance commence seulement à partir de vos 8 ans. C'est assez étonnant d'ailleurs. Auparavant, vous ne vous rappelez pas du tout de ce qui s'est passé. C'est au moment où vous arrivez à Frontignan qu'en tout cas, vous conservez ces premiers souvenirs.
Oui, c'est assez fou. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas trop de souvenirs avant ce passage dans le sud, et ces 8 ans qu'on a déménagé à côté de Montpellier, à Frontignan. Et je me dis, il y a peut-être quelque chose que j'ai occulté, j'en avais même peur. Mais ouais, j'ai quelques bribes de souvenirs à Strasbourg, à Colmar, après qu'on a déménagé. Mais ouais, pour moi, mon enfance a commencé dans le sud, à Frontignan, au bord de la mer. Et avec mes parents, c'est là où on a eu ce cocon familial. Et c'est là où je suis tombé amoureux du hand. Et je me suis posé aussi cette question-là, pourquoi je suis pas tombé amoureux avant, alors que j'ai commencé ma première licence, j'ai eu ma licence à Colmar, où j'ai joué à mes 6 et 7 ans. Et là, mais le hand, c'était juste un amusement. Et à partir de 8 ans, c'est devenu 8, 9 ans, 10 ans, c'est devenu un objectif de vie. Et je me suis dit, mais en fait, c'est le moment où mon père est devenu mon entraîneur, où c'est devenu aussi mon prof de sport à l'école.
Et c'est le moment où vous l'avez eu que pour vous aussi.
Et c'est le moment où je l'ai eu que pour moi. C'est le moment où j'ai voulu lui montrer, j'étais sous ses yeux, donc je pouvais lui montrer que j'étais meilleur que les autres, que je pouvais voilà, amener notre famille vers le haut. On est aussi une famille d'immigrés. Donc voilà, j'ai compris pas mal de choses et ça a été plein d'axes à travailler pour moi, à dépasser, pour avancer et surtout pour terminer ma carrière. Ce moment, cette commotion, dépression est arrivée à mes 38 ans et j'avais encore 2-3 années à jouer. Mais au moment où ça m'arrive, pour moi, le handball, c'était quasiment fini.
Vous rendez hommage, hein, à ses parents. Ça aussi, c'est l'un des objectifs de cet ouvrage. Vous vous adressez à eux directement, comme s'ils étaient là d'ailleurs, tous les deux, à côté de vous. Vous dites « Nos parents nous ont transmis l'importance de l'attention aux autres, de la solidarité, du sacrifice ». Vous dites aussi que votre père vous a appris à ne jamais vous placer en tant que victime. Ça, c'est une règle de conduite que vous avez même vécue avec les paris. C'est-à-dire que même si vous avez beaucoup été affecté, vous avez été vraiment roulé dans la boue, vous racontez cet épisode avec beaucoup de courage, vous dites qu'à aucun moment vous aviez envie d'être une victime. Par respect pour lui.
Il nous a amené cette notion-là. On ne se place pas en victime. On peut vivre des choses difficiles dans la vie, plus faciles ou alors des beaux moments, mais quand c'est dur, on a le choix en fait. Soit on accepte la situation et on vit avec, soit on essaye de la changer, de la prendre en main, de la faire évoluer si elle ne nous convient pas, ou alors on s'échappe et on l'abandonne et on part ailleurs. Et jamais à se poser en victime, c'est trop dur, j'y arrive pas. Il me disait toujours, il y a pas de problème, il y a que des solutions. Et c'est assez fou, pareil, en revisitant tout ça, de me dire que ce sont des petits mantras comme ça, des petites expressions, des petits mots que notre père nous a donnés quand on était petits, qui m'a transmis, et elles m'ont guidé toute la vie, juste des mots comme ça, et ça a été un guide dans beaucoup de situations. Et ouais, j'aime pas du tout me placer en victime. Il y avait aussi, je disais toujours à ma mère avait plus tendance à nous plaindre, « Oh, c'est difficile, oh, mon petit chéri », et j'avais quelque chose d'épidermique chez moi, où j'ai dit, arrête de nous plaindre, maman, arrête, j'aime pas ça. Et donc, ouais, j'ai jamais aimé... être plein, j'aime pas non plus être porté au nu, il y a quelque chose, je sais pas, en moi qui n'aime pas ça.
Vous
donc
avez
non.
Un problème, effectivement, avec ça, de recevoir l'amour. Hein. Par exemple, à chaque fois que vous êtes parti de la maison, votre mère, elle était dans tous ses états, ce qui est logique, c'est une maman et c'est toujours difficile de voir son enfant partir. Et c'est des moments que vous détestiez à chaque fois. Vous avez eu très longtemps un rapport très compliqué avec l'amour qu'on pouvait vous transmettre et vous donner.
Je le ressentais, cet amour, amour inconditionnel de ma maman, de notre papa aussi, mais ça passait un petit peu différemment. Donc on le sentait, je le ressentais, mais ouais, on était des garçons avec mon frère, donc c'est vrai que les garçons, et je m'en rends compte aujourd'hui avec mes enfants, j'ai une fille et un garçon, les garçons ont plutôt tendance à fuir un peu cet amour et à ne pas s'y ouvrir tout de suite, et donc il m'a fallu un petit peu de temps, même si je le sentais que c'était au fond de moi, et donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi. Ouais, j'embrasse tout l'amour que j'ai et j'apprends à le donner aux personnes autour de moi, aux personnes proches, aux personnes que je croise aussi, j'apprends aussi à comprendre ce qu'est l'amour. L'amour, c'est pas juste... L'amour romantique, il y a tellement d'amours différents, l'amour pour ses enfants, pour ses amis, la joie, c'est aussi de l'amour, le bonheur. C'est une énergie, en fait, j'ai compris à travers plein de choses, plein d'expériences, que c'est ça qui nous lie tous les uns aux autres et qu'il faut en prendre soin.
On va voir si vous êtes sur le chemin de la guérison. Vous vous sentez romantique ou pas aujourd'hui, Nicolas ?
Je me sens toujours, maintenant, je me sens tous les jours romantique et plein d'amour.
Les Barjots sont devenus vos idoles quand ils ont battu la Croatie, lors des championnats du monde de handball islandais. Vous dites que vous n'oublierez jamais ce que nous devons aux Barjots. Il y en a, c'est les Marvel Comics, c'est les super-héros. Vous, vos héros, c'était les Barjots, c'était ces hommes indestructibles qui sont allés chercher une coupe que personne n'avait eu auparavant en France. Il y a eu un déclic à ce moment-là pour vous. Vous avez voulu tout de suite faire partie, en gros, des mousquetaires.
Oui,
ces mousquetaires-là.
Ils m'ont fait rêver. Ils ont porté ce maillot bleu de l'équipe de France, ce maillot mythique au plus haut avec ce titre de champion du monde, premier titre de champion du monde en sport co-français. Ça aussi, c'était quelque chose qui plaçait le hand pour une fois sur le devant de la scène sportive française. Ouais, ils m'ont fait rêver. Jackson, il m'a fait rêver. Frédéric Vol, Denis Latou, Eric Quintin, tous ces barjots-là qui, en plus, c'était des barjots. C'était pas forcément des hommes indestructibles. C'était des fous qui se faisaient des coupes de cheveux peroxydées, qui se gravaient dans leur coupe de cheveux des messages derrière la tête. Donc, c'était ces doux fous qui arrivaient.
Des barjots, quoi.
Des barjots, des vrais barjots qui avaient sorti notre sport de l'anonymat, qui l'avaient mis sur le devant de la scène. Et j'en étais terriblement fier. Et ils m'ont donné envie de jouer pour la France, c'est pas pour la Croatie ou la Serbie ou ces nations de l'ex-Yougoslavie.
Ça a même été, si elles sont très importantes pour
moi. Même si elles sont très importantes pour moi, et pendant très longtemps, ça a été dur parce que je le voyais souvent et je l'ai vécu après plein de fois. France-Croatie en finale des championnats du monde, je l'ai vécu en demi-finale en 98, l'équipe de France de foot, et je l'ai vu tellement de fois. Donc oui, j'ai ces racines qui sont en moi et qui ont été aussi, je pense, qui ont fait partie de mon histoire, qui m'ont permis d'être un des meilleurs au monde. Et ça, je dois beaucoup à mes racines et j'en suis très fier, mais je me sens français. Et je joue pour la France et c'est les Barjots qui m'ont donné envie de faire ça.
Vous abordez contre toute attente l'affaire des paris truqués de 2012 qui vous a valu d'être effectivement effectivement condamné à 2 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende. Vous dites qu'il aura fallu 12 ans pour accepter cet épisode charnière de votre vie dont vous êtes servi pour grandir et évoluer. Il fallait laisser le temps au temps, Nicolas, de digérer aussi les trahisons. Vous pensiez avoir beaucoup d'amis, beaucoup vous ont tourné le dos, ça vous le soulignez dans cet ouvrage. Ça a été un moment déconcertant. Vous êtes retrouvé à être récupéré par des policiers, vous avez été envoyé en garde à vue avec votre compagne et des personnes qui étaient très importantes pour vous. 12 ans, c'est long, mais c'était le temps nécessaire?
Je sais pas si c'était le temps nécessaire. En fait, pour moi, c'était intéressant de revenir, pas forcément sur l'affaire et comment elle s'est déroulée, de l'expliquer, de mettre du contexte.
Mais comment vous l'avez vécu?
Mais surtout d'expliquer comment je l'avais vécu. Encore un moment charnière, encore un moment en Cairo. Comment on vit ces moments terribles où on est plus qu'au plus bas, et même pas physiquement, là c'est sa réputation, c'est sa vie, on sait plus si on va rejouer au hand ou pas.
Suspendu à ce moment-là.
Donc ce que je voulais faire, c'était revenir sur comment je l'avais vécu, comment surtout je m'en étais servi pour avancer dans ma vie de sportif et d'homme, et comment au final, aujourd'hui, je peux regarder en arrière en me disant en fait c'était peut-être un bien pour un mal pour moi personnellement, parce que je sais que ça m'a pas touché que moi, il y a d'autres personnes qui ont été affectées, mais pour moi, personnellement, ça a été un bien pour un mal parce que ça a permis de mettre mon ego au plus bas. Peut-être qu'à ce moment-là, je pensais que voilà, j'allais être un jour ministre des sports et là, ça a tout terminé. Donc, ça m'a permis de comprendre des choses sur mon ego. Ça a permis de comprendre aussi des choses sur ma capacité de réaction, ma résilience, parce que à partir de là, à la suite, je suis revenu encore plus fort et j'ai traversé les murs et j'ai montré que vous pouvez mettre à terre, mais je serai encore plus fort et vous pourrez pas vous débarrasser de moi. Et surtout, ce que j'ai compris, c'est que voilà, on peut réagir comme ça. On peut traverser des murs, mais qu'au bout d'un moment, si on reste sur la haine et sur la colère, ça nous bouffe. On y repense tout le temps, tous les soirs avant de se coucher. Il faut l'accepter, il faut comprendre que, pour ma part, ça a été un épisode qui fait partie de mon histoire, qui va me suivre toute ma vie. Et surtout, c'est comment je le regarde, en fait. Comment on regarde son passé. On peut le regarder de manière négative, en restant sur la rancœur, ou on peut se dire, en fait, ça a été un mal pour un bien, et ça m'a permis d'avancer. Et surtout, je l'accepte. Presque j'aime ce moment, et je pardonne aux personnes qui m'ont tourné le dos, qui ont dit du mal de moi, et j'avance, et aujourd'hui, j'en serais pas là si ce moment-là n'était pas arrivé.
Ce qui est incroyable, c'est le courage que vous avez eu, hein, parce qu'au début, vous êtes rentré sur le terrain quand vous avez repris, vous étiez sifflé par le public, enfin, ça a été des moments très difficiles. Il y a des gens que vous pensiez être très proches de vous qui n'ont pas été là, d'autres que vous n'imaginiez pas être à vos côtés, qui l'ont été, donc c'est assez fort. Vous avez appelé ce chapitre Nuit Noire de l'âme, pourquoi?
C'était avec Basile.
C'est la faute à Basile.
Parle beaucoup. Non, c'est pas la faute de Basile. Non, j'aime beaucoup Basile et je suis super heureux parce qu'il a réussi vraiment à retranscrire aussi ma manière de m'exprimer et mon phrasé. Et donc non, Nuit Noire de l'âme, parce que c'est des moments, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les moments où on est au plus bas. Et surtout, cet épisode-là arrive un an après le décès de mon papa, et on en a parlé. Mon père était mon guide et mon étoile. Et donc là, j'arrive dans un moment en ma vie où les emmerdes, c'est plus que des emmerdes, c'est des précipices s'enchaînent, où je me dis, y a une possibilité de pas revenir sain et sauf de moments comme cela. Et donc, c'est des moments où t'es au plus bas. Mais mon témoignage, c'est ça aussi, c'est on peut les surmonter, on peut en faire une force et on peut les regarder sans rancœur et sans haine.
Ce livre, il alerte aussi sur la santé mentale des sportifs de haut niveau. D'autres sportifs avaient déjà préalablement un peu abordé ce sujet-là. Je pense à Novak Djokovic ou encore à Naomi Osaka ou Simone Biles. C'est un sujet qui est encore aujourd'hui assez tabou, Nicolas. On a du mal à parler de ça, de parler de la santé mentale des sportifs de haut niveau. On a tellement l'impression qu'effectivement, ils sont indestructibles, qu'on en oublie que par moments, ils ont le droit d'avoir des faiblesses et de rater des matchs.
Aujourd'hui, on parle de santé mentale et c'est un vrai sujet. Ça a été le sujet national l'an dernier. Donc, on en parle, et surtout que aujourd'hui, paradoxalement, on est dans une société où on a tout à disposition, on a les meilleures conditions de vie, et on va le moins bien, que ce soit les adultes ou même les enfants, les collégiens, donc c'est un vrai thème. En fait, c'est surtout ce dont on a du mal à parler, c'est pas que la santé mentale, c'est de nos vulnérabilités, en fait. Quand on parle de soi dans la presse, enfin, surtout qu'on est sportif, c'est ça, on se protège tous, on est là à parler de nos réussites, on parle pas de nos échecs, on parle pas de quand c'est difficile, parce que, on va être jugé, on va être raillé, on a peur, il faut avoir un petit peu de... Enfin, c'est pas du courage, mais il faut oser le faire. Et en fait,
il faut du courage.
En fait, c'est ça, il faut montrer... je pense que nous, les sportifs, on a cet exemple-là à donner. Les personnes nous regardent, pensent qu'on est des robots. Et c'est vrai que nous, on s'est aussi construit cette image. Et moi aussi, je me suis construit cette image en étant infaillible, en étant très dur mentalement, avec moi-même, en étant exigeant avec les autres, mes coéquipiers, en gagnant, en étant jamais blessé, en jouant, en ayant mal partout, en ayant des blessures, mais en étant là, un guerrier, quoi, prêt à mourir sur un terrain. Pour moi, quand j'étais jeune, si on m'avait dit si un jour t'atteins tous tes objectifs mais ça implique que tu meurs sur le terrain, est-ce que tu signes, j'aurais signé. Et là maintenant Là, je dis non, jamais de la vie. Non, c'est pas ça. On n'est pas des samouraïs. Et je l'ai compris après beaucoup d'années. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre-là aussi. C'était pour parler de ça, de ces épreuves que j'ai traversées, qui m'ont fait, en fait, grandir. Et que c'est dans les moments, justement, où on est le plus vulnérable, c'est là où on grandit, parce qu'on se rend compte que, ben, moi, en osant parler de ma vulnérabilité, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me dire, mais ça m'a touché ce que tu as dit. Moi aussi, j'ai vécu ça, c'est fou. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes autour de moi qui avaient traversé ou ressenti les mêmes choses à des moments dans leur vie. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre-là, pour témoigner, pour que peut-être, si ça aide une personne, ben ça sera déjà un succès.
Vous démarrez ce livre avec deux phrases, une de Sénèque, « La vie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, mais effectivement, c'est apprendre à danser sous la pluie. » La deuxième est signée Confucius. « On a deux vies, la deuxième commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. » Ce livre, c'est ça, c'est une promesse d'avenir serein et plus léger.
Non, c'est pas une promesse d'avenir serein et plus léger, parce que la première, il faut danser sous la pluie, et là, il pleut, je pense qu'il pleut beaucoup en ce moment, et c'est de se dire ça, c'est des vagues, on est au plus haut, puis on est au plus bas, puis c'est moyen, ça va, la vie professionnelle, ça va super bien, la vie de couple, de famille, ça grince. Et en fait, il y aura jamais un moment où tout ira bien, et on sera sur un nuage, et on pourra profiter. Moi, je pensais ça, je pensais que c'était ça, la vie sportive de haut niveau, ben, je vais arriver à un moment, j'aurai atteint tous mes objectifs, et ça va aller, et la vie sera tellement belle.
Et surtout, vous pouvez pas atteindre plus d'objectifs que vous avez non, déjà, ouais, vous avez tout gagné.
Je les ai terminés, tous mes objectifs, mais j'ai atteint tous mes objectifs à 24 ans. Après, à partir de là, tu te demandes où tu vas. Bon, moi, c'est le sport de haut niveau, on répète, et je rigolais avec les jeunes de l'équipe de France, on blaguait, on disait, j'ai terminé le jeu trois fois, j'ai gagné tout trois fois, même certaines choses quatre fois, enfin bref, je suis allé au bout du bout du bout. Je me suis rendu compte, en fait, non, ça te garantit rien. T'es pas plus heureux et tu peux avoir atteint tous tes objectifs de vie et même être le meilleur dans un domaine, être le meilleur, prendre le globe comme ça, regarder, il y a personne qui est meilleur que toi dans ce que tu fais là, mais ça te garantit aucun bonheur. Et donc, la vie, c'est ça, c'est des hauts, des bas. Et il faut apprendre à danser sous la pluie. C'était ça, j'ai bien aimé cette citation, danser sous la pluie et quand il fait beau. Et en gros, être heureux dans tous les moments et qu'on peut maîtriser son bonheur ou en tout cas son état intérieur à travers plein d'outils, de méditation, tout ça. Et l'autre citation est Confucius. Je suis pas un érudit, donc je sais pas, je connaissais pas toute son histoire, mais cette citation m'a plu parce que je me suis rendu compte que ben, c'est quand on approche de moments très difficiles, donc que ce soit des décès de proches, moi par exemple, la fin de ma carrière, des moments où ben, quand je me suis fait les croisés avec l'embolie pulmonaire, avec la phlébite où c'était très dangereux. En fait, quand on approche de sa fin, de petite mort, c'est là où c'est important de regarder comment on l'aborde et on peut se servir de ces moments-là pour goûter la vie après encore. Différemment avec et de voir la vie sous un autre angle. Ça m'a vraiment marqué. Voilà, j'ai physiquement avec cet état de dépression et aussi avec la fin de carrière qui approchait, j'ai touché cette petite mort. Je m'en suis approché, je l'ai vu et en fait, ça m'a pas terrorisé, ça m'a donné envie de vivre la vie encore plus intensément et de la savourer et c'est là où j'ai compris que le plus important, c'est l'amour sous toutes ses formes et les relations qu'on a avec nos proches, avec les personnes auxquelles on tient et l'important dans la vie, c'est d'être positif d'abord pour soi et pour les autres autour et après on peut faire des choses chacun a son impact, son travail, et on est en contact avec plein de monde autour de nous, mais le plus important, c'est d'être bien avec soi-même, équilibré, et c'est là où on peut être positif pour notre environnement proche.
Vous dites que pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même, vous en êtes où?
Bah, c'est un travail, c'est un chemin, et je sais pas si un jour il sera terminé, parce qu'il y a beaucoup de couches à explorer, beaucoup de peurs à traverser encore, et beaucoup de séances de méditation, de lecture, mais en tout cas, je suis dessus, j'avance, je touche encore plus à la amour qu'il y a au fond de moi, j'enlève toutes les couches qu'il y a autour et ça me permet d'être, je suppose, j'espère, un meilleur papa, un meilleur frère, un meilleur fils, un meilleur futur mari, parce que bah, ce qui est génial, c'est qu'à la suite voilà, de tout ce travail sur moi-même aussi, bah, j'ai demandé ma compagne en mariage après 15 ans en commun, alors que j'étais un peu anti-mariage, et voilà, et donc je suis très heureux et ça me permet de surtout d'avoir une vision et d'aborder la vie avec beaucoup de joie, alors que je pensais justement, bah, j'ai terminé ma carrière, tout ce qui va être après, tout ce qui va arriver, ça va être fade, comparé à ce que j'ai vécu aux matchs, aux compétitions, aux médailles, au rush d'émotion, d'adrénaline, tout ça va être fade. Et en fait, non, je m'aperçois que je suis super heureux, j'ai plein de projets, mais je suis très heureux aussi quand j'ai rien devant moi. J'ai appris aussi à être seul avec moi, avec le vide. Et ça, c'est une force.
Merci beaucoup, Nicolas Karabatic, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Votre livre autobiographique, Ma plus belle victoire, est disponible aux éditions Flammarion. Et il y a également les deux BD, l'occasion de découvrir donc cette ascension des frères Karabatic dans toute leur splendeur, tome 1 et 2. C'est sorti chez Casterman. Merci beaucoup.
Merci, Élodie.